Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur, l'étude de la Bible livre par livre. Et nous en sommes au livre d'Ecclésiaste, un livre très très intéressant, très puissant en sagesse et réflexion et qui nous communique la pensée divine et la réalité de la vie terrestre. Voilà, c'est ça le but du livre des Ecclésiastes. Il nous montre la réalité de la vie terrestre, ce que c'est vraiment, pour nous pousser à nous rattacher à Dieu. Et au chapitre premier, le premier chapitre, nous avons fait un résumé de tout le livre. Et nous avons fait ce résumé-là dans le but de comprendre le reste du livre, parce que sans le résumé de l'ensemble, on risque de se méprendre sur les intentions du livre. Voilà, et nous avions dit que le livre voulait nous montrer qu'il n'y avait pas de limite claire des choses, il n'y avait pas d'explication claire des choses, il n'y avait pas de limite claire de choses, donc on ne pouvait pas maîtriser la sagesse, maîtriser Dieu, on ne peut pas, et il n'y avait pas de satisfaction maîtriser des choses, il n'y a pas de limite, pas d'explication nette des choses, pas de satisfaction maîtrisée. Donc finalement, la vie sur terre est une poursuite du vent, dit le monsieur au premier chapitre. C'est la poursuite du vent. On poursuit quelque chose que nous n'atteindrons jamais. Voilà, il y a un côté qui nous dépasse et qui finalement rend la vie sur terre vaine, puisque ce n'est pas maîtrisé. Donc quelque chose qui n'est pas maîtrisé ne peut pas satisfaire réellement. Voilà. Et ça devrait nous pousser à rechercher l'éternité. Là où c'est maîtrisé, on a tout le temps pour tout. Et la fois dernière, on avait constaté que l'écrivain, c'était Salomon, parce que c'était un fils de David, il était roi. Voilà. Et nous savons que c'est lui qui a reçu le don particulier de sagesse, et dont il en parle lui-même au chapitre premier, il dit qu'il a surpassé tout le monde en sagesse. Donc c'est bien, il s'agit bien de Salomon là. Mais en même temps, donc au chapitre premier, nous avons présenté la vanité de cette sagesse-là. Lui-même, ce n'est pas nous. Non, c'est qu'il dit, malgré tout, cette sagesse reste vaine, parce qu'elle n'est pas, il n'a pas maîtrisé tout, Salomon. Et ça ne l'a pas non plus le fait qu'ils connaissent beaucoup rendu heureux par le fait qu'ils connaissent beaucoup. Il faut bien qu'on comprenne les choses. Connaître beaucoup, c'est très bien, mais c'est quand c'est relié à Dieu que ça nous rend heureux. Mais juste le fait de connaître beaucoup en soi ne peut pas rendre heureux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit que plus on connaît, plus on voit le mal, plus on voit les difficultés, plus on discerne les choses, plus ça nous crée du travail de réflexion et du travail à régler les problèmes. Voilà, c'est cela. Donc les choses en elles-mêmes, aussi impressionnantes soient-elles, n'apportent pas le bonheur, même la sagesse qui est censée, justement, arranger la vie de quelqu'un sur terre, lui éviter des pièges, lui éviter des erreurs. Même cette sagesse-là, en elle-même, elle ne peut pas satisfaire totalement parce qu'elle est suivie d'autres désagréments que si on ne relie pas les choses à Dieu, on ne trouve pas le bonheur, même dans la sagesse elle-même. C'est lui qui nous le dit. Donc, on a montré la vanité de la sagesse humaine. Maintenant, nous passons... Je dis bien vanité de la sagesse humaine, même si les bonnes idées viennent de Dieu, mais du moment qu'elles sont, l'homme se l'approprie comme une sorte de force, ça devient de la sagesse humaine. Voilà. Et du coup, c'est vain. Nous passons au deuxième chapitre, un chapitre très important, qui est basé sur la vanité de la jouissance, la vanité des richesses, la vanité de la sagesse encore. Et c'est ce que nous allons voir en ce deuxième chapitre, vanité de la jouissance, vanité de la production humaine et de la sagesse humaine. Donc ce que l'homme produit n'est que vanité. En réalité, c'est ça qui va démontrer, parce qu'on peut vanter certaines personnes parce qu'ils ont produit ceci, cela, mais tout cela est vain. Et c'est ce qu'il veut démontrer. Et finalement, démontrer également que la sagesse en soi, comme une sorte de force personnelle, elle aussi, elle est vaine. Pourtant, c'est elle qui paraîtrait être sage. Donc, on se répète. Voilà. Nous prenons le chapitre 2.
Ecclésiaste, chapitre 2. J'ai dit en mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie.
Voilà, il dit, bon, je veux être tout le temps heureux, joyeux plutôt. Je veux être tout le temps content, joyeux, en mangeant les bonnes choses, en faisant les bonnes choses, la jouissance. Donc, il veut être tout le temps dans la joie par les plaisirs qu'il peut trouver. Au fait, il est en quelque sorte à la recherche d'une perfection terrestre, d'une satisfaction terrestre maîtrisée. Il s'est dit, peut-être la jouissance va me combler. Vous voyez, donc va satisfaire tout et du coup, je serai comblé. Mais il dit, même cela n'a pas suffi. Et il dit, et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Donc finalement, les moments de joie, comme parfois ils sont suivis de moments de tristesse, qui font oublier complètement la joie. Et tu te dis, mais finalement, à quoi ça a servi? Ces moments de joie, nous répétons, ne sont pas du tout maîtrisés. Et comme ce n'est pas maîtrisé, ça nous échappe et ce n'est plus agréable, finalement. Si, je répète bien, ce n'est plus agréable si on doit les considérer en elles-mêmes comme une force, comme une solution. Ça n'a pas marché parce que, comme j'ai souvent dit, les gens vont sauter de joie lors des demi-finales, mais à la finale, quand ils vont perdre, ils vont pleurer encore. Voilà. Et finalement, tu te dis, à quoi ça a servi d'être dans la joie lors des demi-finales? Bon, les gens vont être dans la joie à la naissance de l'enfant, mais quand l'enfant grandit et il commence à faire des bêtises, et ils vont regretter encore. Donc finalement, la joie en soi, limitée à elle-même, est sans effet. C'est vain, finalement. Même la joie, c'est vain, puisqu'elle n'est pas maîtrisée. Elle n'est pas contenue dans un récipient que nous maîtrisions. Un récipient que nous maîtrisions, non. Elle nous échappe. Et en nous échappant, ça la rend inutile, ça la rend vaine. Voilà, en quelque sorte. Puisque finalement, pendant que tu es triste, pendant que tu souffres, tu oublies la joie que tu avais. C'est comme si ça n'a jamais existé. Donc, c'est vain. Et il en a fini par conclure que le rire est insensé et la joie, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que, on a beau rire, mais la réalité finit par nous rattraper. Tu ris jusqu'à 4 heures du matin, mais à 7 heures, tu dois aller au travail. Donc, au moment où les amis s'en vont et que tu retournes dans ton lit, tu regardes l'heure, 4h45. Toute la soirée, toute la joie de la soirée disparaît parce qu'il faut se réveiller à 7h. C'est ça la réalité. C'est que finalement, il dit, mais le rire, ça sert à rien. Parce que là, voilà que je dois travailler à 7h du matin. Le rire, ça sert à rien. À peine on a ri il y a 30 minutes, vous savez, dans certaines soirées, fêtes, tout ça, les gens vont rire pendant 3 heures du temps. Et après les 3 heures du temps, il va y avoir une bagarre. il va avoir une réponse mal donnée qui va engendrer une réaction. Et puis, finalement, tout ce temps-là de festoyer, eh ben, finalement, ça n'a servi à rien parce que ça finit par la bagarre, ça finit par la colère. Certains même, parfois, ils étaient venus ensemble, ils retournent, ils sortent de la soirée, chemins différents, par des chemins différents. Ben, pourquoi ? Parce que ils se sont pris la tête, hein, ils se sont mal parlé. Et à quoi ça a servi la fête, finalement ? Donc Salomon dit, j'ai été joyeux, j'ai beaucoup ri, mais même ça, ça n'a pas suffi à me satisfaire. C'est ça la réalité. Et nous passons à autre chose, au verset 3, à partir du verset 3. Tout le verset 3.
Je résolus en mon cœur de livrer la chair au vent, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie.
Voilà, il a tenté plusieurs choses. Il s'est dit, bon, je reste sage, je reste intelligent, mais je veux faire les mêmes choses que les gens fous. Voilà. Dans ma tête, je connais le bien, je reste sage, je veux me contrôler. Mais essayons le chemin du vin. Voir un peu, ça donne quoi à la fin ? Voilà, il a dit, voilà, pendant que ma tête reste, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Donc, il est dans une forme de sagesse, selon lui. Mais même une pareille décision, en réalité, c'est une erreur. Donc, on voit que, finalement, la sagesse que Dieu donne, lorsque l'homme cherche à la maîtriser, il va s'inventer sa propre sagesse qui le conduit justement à livrer sa chair au plaisir. Il se dit, je vais me contrôler, mais je vais me livrer au plaisir, voir là où ça mène. Il dit, et m'attacher à la folie, faire des bêtises, mais selon lui, tout en restant sage dans la tête. Mais non, c'est une contradiction. Mais quand tu commences à vivre selon ton intelligence, ben, les contradictions selon Dieu ne sont plus visibles. Il se dit, ben, je suis pas fou comme les autres. Moi, je cherche, j'explore les choses, je veux comprendre. Mais nous savons tous que le monsieur, il a fini par quoi ? Il a fini par avoir 1000 concubines, 1000 femmes. Vous voyez, l'homme qui pensait se contrôler par la sagesse n'a pas pu se contrôler. Le mal l'a dépassé. Ça l'a dépassé. C'est une erreur de penser gérer le mal. C'est une erreur. Nul n'est assez fort pour gérer le mal. Il y a plein de gens qui ont pris des routes en disant « je veux me gérer. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je veux m'arrêter à un certain niveau. » Mais ils ne se sont pas arrêtés à ce niveau-là. Ils sont partis loin. Ça ne se gère pas le mal. Lui s'est dit « je suis sage. Je sais ce que je veux. » Je veux juste explorer, voir. Et lui, en quelque sorte, il cherchait comme une sorte de bonheur total maintenant qu'il a la sagesse. Il lui faut deux ou trois choses pour connaître l'extase totale, le bonheur total. Et mais non. Normalement, la véritable sagesse doit nous éloigner du mal. Et c'est Job qui le dit dans Job 28:28, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Mais là, quand tu entres maintenant dans des raisonnements personnels, dans la sagesse humaine, tu te dis, je vais me contrôler, je veux juste savoir, ça mène où ? Mais ça a mené à ce qu'il a fait beaucoup de gaffes, finalement, Salomon, en prenant cette route, et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. C'est ce qu'il nous dit. En fait, l'Ecclésiaste, c'est la conclusion de sa vie. Il dit, mais finalement, j'ai fait tout cela. C'est pourquoi quand on dit aux gens aujourd'hui, mais non, mais cette voie-là, c'est attention, cette voie, mais il nous qualifie d'extrémistes. Mais C'est parce que les gens sont déjà passés par là. Quand Salomon parle, il est passé par là, il avait 1000 femmes. Il va expliquer tout ce qu'il a fait. Il avait toutes sortes de richesses. Donc les conseils qu'il donne, c'est pas les conseils d'un moine qui a déjà toujours vécu enfermé quelque part et qui donne ses conseils là aux gens de l'extérieur. Non, lui, il a connu la débauche plus que tout le monde. Mais il dit tout ça, c'est vanité. Ça sert à rien parce que ça te crée d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin, tu deviens esclave, ça ne te donne même pas le bonheur. Ça ne sert à rien du tout. C'est ce qu'il dit, j'ai fait cela, je me suis attaché à la folie jusqu'à ce que je vis ce qu'il est bon pour le fils de l'homme de fer. Voilà, il a fait tout ça, mais la conclusion est la même. Ça ne sert à rien. Vanité, de vanité. Au contraire, nous savons comment ça l'a perdu. Eh bien, on va prendre encore une autre piste. Là, c'était le plaisir, la jouissance. Ça ne l'a pas donné le bonheur. Maintenant, nous prenons la piste de la production. Oui, question. Nous prenons la piste de la production à partir du verset 4. Après la question, nous allons en parler. Oui.
Mais la semaine dernière, on a vu justement au travers l'étude biblique qu'il fallait se rappeler que la sagesse qu'avait reçue Salomon, c'était une sagesse qui ne s'était pas vue sur la surface de la terre jusqu'à présent. Bon, peut-être Jésus, oui. Mais alors comment arriver à de telles dérives si on prend le vice des femmes, là, par exemple. La sagesse est partie...
Donc, c'est au moment où tu t'appropries ce que Dieu t'a donné pour gérer ça selon toi, c'est là qu'on arrive à ces dérives. Donc, parce que la conclusion qu'il prend, là, il dit, mon cœur reste sage, mais je vais m'adonner au vice. Donc, ça, ce n'est pas de la sagesse qui vient de Dieu. Ça, c'est son raisonnement. Donc, il se saisit du don de Dieu pour agir humainement. C'est ça l'erreur. Donc, le don de Dieu doit être toujours relié à Dieu. Quand on ne relie plus ça à Dieu, ça nous mène dans des déviations graves. Les sectes sont les témoignages du don de Dieu dévoyé. Donc, Dieu a donné un don à quelqu'un. La personne utilise ce don, pas pour Dieu, pas en connexion, en relation avec Dieu, mais selon la logique humaine, et ça finit mal.
Donc finalement, il est pris par presque par son propre piège. Il pense être sage et finalement, de cette sagesse, il en fait n'importe quoi.
Il fait n'importe quoi.
Alors, mais maintenant, nous, quand on lit, comment on peut savoir alors sagesse de Dieu, mais comment faire la distinction entre que c'était une sagesse de Dieu ou la dérive de l'homme qu'il a mal à utiliser?
Lui-même, il le dit. Il avoue, Ecclésiaste, c'est ça. C'est que j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Donc la conclusion, on la verra, c'est Ecclésiaste 12. Il y a une conclusion, mais nous l'avions déjà dit hier, le mardi passé, la conclusion, c'est qu'il n'y a que Dieu qui vaut. C'est ça la conclusion, c'est ça. C'est un livre confession. J'ai tout essayé, j'ai fait toutes sortes de débauches, j'ai même été professionnel de la sagesse, mais tant que ça devient bien personnel, ça n'apporte rien du tout. Il faut toujours que ça soit relié à l'Esprit de Dieu, à Dieu lui-même. Donc, c'est cela. Il a tout fait. On passe à la production. Verset 4.
J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. et il n'y a aucun, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil.
Voilà. Bon, bien-aimé, qui a pu faire tout ce que Salomon a fait là, planter des arbres, de fruitiers, des vignes, des jardins? Il avait des serviteurs en grande quantité, des bœufs, des... Au fait, c'est comme s'il se construisait un paradis terrestre. Voilà, c'est comme s'il se construisait un paradis terrestre. Il dit, je ne me suis pas privé. Donc même les femmes, j'en ai eu beaucoup finalement. Il était voilà, dans une jouissance terrestre la plus élevée. Mais non seulement jouissance, mais production. Il a fait des ouvrages. C'est lui qui a fait le temple, souvenons-nous. Et non seulement il y a le temple, mais sa propre maison, son propre palais. Quand on en lit la description, mais on a même l'impression que son palais était supérieur au temple. Tellement la description, je crois que son trône était en ivoire, des choses comme ça. Mais il avait tout ça. Voilà, mais il dit, mais finalement, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Parce qu'il arrive un moment où ces choses passent. Au fait, c'est ça. C'est que la vieillesse et la mort nous enlèvent tout. Quand je dis tout, tout, c'est tout. Même la sagesse, ça t'enlève. Tu vas faire quoi avec la... Est-ce que cette sagesse-là va te permettre de courir vite? Pas du tout. Tu es sur un fauteuil roulant. Et la sagesse? Ça ne va pas te donner la santé? Et les ouvrages? Les bâtiments que tu as construits? Est-ce que ça va te donner la vie? Non. Donc face à la mort, tout ça finalement, ça ne sert à rien. Et il va le dire à la fin. Mais c'est pour nous dire, bien-aimés, que nous écoutons quelqu'un qui a expérimenté plus de choses que nous en matière de jouissance et de richesse et de production. Il n'y a pas que la richesse. Il n'y a pas que la jouissance. Mais il y a aussi la production. Il a bâti des choses. Nous qui faisons des tours en Israël, nous réalisons davantage archéologiquement que Salomon a bâti des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible, mais il y a des fouilles, des découvertes qui sont faites. Hein. Et les gens, les archéologues disent que c'est Salomon qui les a bâtis. Ou bien qu'ils sont dans, c'est écrit dans la Bible, mais en filigrane. Mais quand vous voyez maintenant, on vous décrit historiquement ce que c'était, c'est grand. À chaque fois, c'était grand, grand, grand partout. Il a fait beaucoup d'ouvrages. Donc quand il parle, là, c'est vraiment la réalité. Il en a fait. Des écuries par-ci, des chars par-là. Salomon a fait beaucoup de choses. Et vous vous rendez compte que pendant son règne, il n'y avait pas non plus de guerre. Donc, il avait vraiment tout pour dire « je vis bien ». Pas de guerre. Il ne fait que bâtir des choses. Parce que les autres rois ont du mal à bâtir parce que les guerres viennent empêcher ces choses, la construction. Mais lui n'avait pas de guerre. 40 ans. Il avait tout ça. Mais il nous dit que finalement tout ça laisse un goût amer. Un goût amer lorsqu'on les considère en... Ces choses-là en elles-mêmes, si tu les considères comme une sorte de force, de sécurité, de bonheur maîtrisé, tu vas finir par avoir un goût amer de tout cela parce que la réalité te rattrapera. La mort viendra tout effacer tout ça. La vieillesse viendra effacer tout ça. Les difficultés de la vie, ça viendra effacer ça. À un moment donné, Salomon avait du mal à récolter l'argent qui lui était nécessaire pour vivre pompeusement. Et il a appliqué aux enfants d'Israël des impôts durs. Et il n'était plus aimé par la population. Voyez, donc la réalité finit par te rattraper. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il dit, mais finalement, tout ça, ce n'est que la poursuite du vent. Tu penses trouver le bonheur par les jardins, par le vin, par le nombre de femmes, par une façon de danser. Tout ça, c'est vanité. Le bonheur ne se trouve qu'en Dieu seul. Oui, question?
Question Internet. L'internaute pose la question, il dit, n'est-il pas étonnant qu'à aucun moment Salomon parle de repentance malgré tous les péchés commis, sans parler de l'exemple de son père David qui s'est lui souvent repenti.
Moi, je pense que tout ce livre est une forme de repentance. Hein. Il reconnaît que tout ça est vanité. Il continue à faire son travail et il reconnaît que ça, tout ça est vanité. Parce que s'il n'y avait pas ce livre, nous aurions la même conclusion que les internautes. Mais ce livre est celui qui calme tous les lecteurs de la Bible concernant Salomon, à savoir que quand on lit ce livre, c'est un livre conclusion. Conclusion de tous les autres livres qui parlent de Salomon, livre conclusion aussi de sa vie, parce qu'il finit par dire, il parle de tout ce qu'il a vécu dans le passé. Tout ce qu'il dit là, c'est comme quelque chose qui a déjà eu lieu et maintenant il a compris. Voilà. C'est le livre de sagesse par excellence, le livre d'Ecclésiaste, de réflexion de sagesse par excellence, parce que c'est la conclusion de tout ce qu'il a vécu auparavant. Que ce soit les exploits, que ce soit les échecs, que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses, Ecclésiaste vient nous faire la conclusion de tout ça. C'est le livre conclusion pour tout sur la terre. Voilà.
Le fait que Salomon...
Excusez-moi, par exemple, le monsieur de la croix, il s'est pas repenti clairement, mais Jésus a considéré ça comme étant de la repentance. Le voleur qui a dit « Jésus, souviens-toi de moi quand je viendrai ». Quand tu viendras dans ton règne. Et avant ça, il avait dit, il a dit à son ami, nous, on mérite ce qui nous arrive, mais c'est pas une. Il n'a pas dit que je demande pardon et que je veux changer. Il n'a pas dit ça. La repentance, c'est quand même ça. Mais Dieu lit dans les cœurs. Il y a des repentances qui se font cœur à cœur avec Dieu Le voleur à la croix et Ecclésiaste sont le témoignage de cela. C'est que la personne est dégoûtée, réalise qu'elle s'est trompée, mais ce n'est pas dit clairement qu'il s'est repenti, mais Dieu l'a pris comme tel. Oui.
Le fait que Salomon déduise cette conclusion de manière aussi rationnelle et lucide, signifie-t-il qu'il était conscient des bêtises qu'il commettait ? Comment comprendre cela ?
Cette conclusion, c'est à la fin. On a bien dit, c'est la conclusion. Il dit, il reconnaît que il a été fou de penser trouver le bonheur de cette manière-là. Mais il pensait que c'était de la sagesse. Donc il a dit bon. Moi, je me souviens même quand on était jeunes, parfois on sortait avec certains amis et nous, dans notre tête, on se disait bon, lui, il est déjà perdu, il est fou. Je vais sortir avec lui, mais moi, je vais me contrôler. Non, c'est une erreur. La Bible est claire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, penser se contrôler dans un milieu du mal, c'est une erreur. Il faut éviter. Et ça, ce sont les conclusions auxquelles il aboutit. J'ai pensé contrôler par ma sagesse le mal. C'est faux. Le mal a triomphé de moi. Voilà. Quand il faisait, il ne s'en rendait pas compte. Il pensait maîtriser la situation. Souvenez-vous du début de notre étude sur Ecclésiaste. J'ai dit, pas d'explication claire et nette des choses. Pas de maîtrise des choses. Pas de satisfaction maîtrisée. C'est ça le thème d'Ecclésiaste. C'est que personne ne peut maîtriser les choses. Personne n'a d'explication claire et nette des choses. Personne ne peut vivre une satisfaction claire et nette. C'est quelque chose qui est comme une sorte de poursuite du vent. On court vers cela, mais en réalité, on l'a trouvé en Dieu. C'est juste que restons dans Dieu, quoi. Voilà. Au lieu de courir vers ces choses-là, personne ne peut y arriver. Donc, c'est ça la conclusion. Il a tenté pensant gérer les choses, mais il a échoué. Nous continuons.
Verset 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi ? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage ? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi ? Le sage meurt aussi, bien que l'insensé.
Voilà, il nous explique le processus. Même si on a déjà parlé de la sagesse au premier chapitre, il revient sur ça. Il a dit, après avoir exploré les jouissances de la chair, après m'être adonné à la construction d'ouvrages les plus extraordinaires, je suis arrivé à la conclusion que c'était vanité. Peut-être que je trouverai quoi ? Le bonheur, l'extase dans quoi ? Dans la réflexion, dans la sagesse. D'ailleurs, j'aurais dû y penser avant. Je crois qu'il a dû se dire, j'aurais dû y penser avant. Les choses matérielles, finalement, après les avoir goûtées de toutes sortes de manières, il arrive à la conclusion que c'est rien du tout. C'est rien. C'est rien et ça... Et vous allez me dire, mais si c'est rien, pourquoi les gens continuent dans ça ? Mais c'est que ces choses-là rendent esclaves. En réalité, c'est rien parce que le bébé n'a pas envie d'aller en boîte de nuit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de boîte de nuit pour exister. Mais pour certaines personnes, c'est quasi indispensable. Une soirée par au minimum une soirée par semaine, c'est indispensable pour eux. Mais pourtant le bébé, je ne lui dis rien, même je vais même loin, le bébé, mais je prends rien que notre exemple à nous, certains chrétiens, ça ne nous dit rien, c'est comme si ça n'existait même plus. Mais pour l'autre c'est important. Donc ces choses là oui, elles sont rien du tout, mais quand on s'est laissé aller dans ça, eh ben elles deviennent un poids, elles deviennent indispensables, elles créent même une addiction et un esclavage. Et pour l'esclave, ça veut dire quelque chose, ça a un poids, alors que pour celui qui n'est pas esclave de ça, il est bien. Et donc, voilà, il a dit, mais j'ai goûté à tout ce qui est physique. De toutes les manières possibles. Il a dit, mais c'est rien tout ça, bien-aimé. Je répète, prenons au sérieux ce que cet homme dit. Il a vécu les choses plus que même nos présidents d'aujourd'hui qui ont des femmes à gauche, à droite, qui ont des doubles types. Il a vécu plus que eux tout ça. Et lui-même, lui, il a fait même officiellement, sans se cacher. Donc, il avait la liberté de faire ça sans se cacher, alors que les François Hollande, ils sortaient avec la moto en cachette. Voilà. C'est pas la même chose. Lui, il faisait ça librement. Je suis le roi, je fais ce que je veux. Jusqu'à 1000 femmes. Jardins, bâtiments, les chars, les chevaux, de toutes sortes. Le bois, l'or. Et nous avons déjà étudié le livre de Rois. Il est dit que l'or du temps de Salomon était tellement courant du temps de Salomon. L'or était devenu quelque chose de courant du temps de Salomon. Tellement il était dans la gloire. Les gens, alors qu'il était dans la gloire, les gens lui amenaient encore. Vous voyez comment c'était à l'époque où Dieu vraiment était avec lui. Même quand il était riche, les gens quittaient, la reine de Séba est venue avec les trésors lui donner encore. Parce que la gloire de Dieu était là. Mais à un moment donné, comme il utilisait ça pour lui, Dieu a retiré. Et quand Dieu a retiré, eh ben, il fallait maintenant mettre un impôt lourd sur les gens. Voilà. Il a compris que tout ça n'était que vanité. Il s'est dit, ah bon, peut-être, vous savez, et surtout quand l'âge aussi avance, il dit, bon, je vais trouver la force dans la réflexion, le bonheur, dans la sagesse. Après tout, c'est mon domaine de départ. Pourquoi je l'avais ? Ben, je vais y retourner. Je vais réfléchir. Mais il réalise que même quand on connaît beaucoup, ce n'est pas, on ne maîtrise pas le bonheur. Et il fait des comparaisons lui-même. Il dit, mais tiens, je reconnais, hein, celui qui dit, je reconnais que la sagesse, c'est quand même mieux que la folie. Il le dit, j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, sur la bêtise, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Il reconnaît l'importance de la sagesse, pas de problème. Il dit, mais, finalement, nous tous on meurt, quoi. Qu'est-ce que la sagesse finalement a réglé? Ça m'a permis de bien vivre. Mais la mort vient tout enlever. Vous savez, la mort, c'est le plus grand dégât, quoi. C'est le plus grand dégât de l'humanité. Tu as fait de belles choses, tu as été honnête, tu as été vrai, tu as aidé les gens, mais toi aussi tu meurs. Et, alors, à quoi ça a servi que je sois ainsi? Bien, c'est la preuve que nul ne peut être sauvé par les œuvres. Nul ne peut, pour avoir fait de bonnes choses, revendiquer quelque chose auprès de Dieu. Tout est grâce, ça vient de Dieu. Voilà, c'est la preuve. Et il dit, ben finalement, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Il y a des gens honnêtes sur qui on a attrapé des maladies graves. Mais pourtant, il est honnête, monsieur. Mais pourquoi j'ai été honnête? Au moins, en faisant le mal et en attrapant une maladie, ça serait bon, logique. Mais non! La sagesse est bien, elle est importante, la vérité est bonne, la justice est bonne, l'honnêteté c'est bien, mais en soi-même, elle ne constitue pas l'honnêteté, ni la justice, ni l'intelligence, ni la sagesse. En elle-même, elle ne constitue pas la solution. C'est ça l'enseignement. Il dit, je me suis donné dans la sagesse en fond pour trouver comme une sorte de sécurité là-bas, de bonheur total, mais non, je me rends compte que le dernier verset 16, et quoi, le sage meurt aussi bien que l'insensé, voilà. Et leur mémoire est oubliée, hein. Voilà, finalement, il faut chercher qui? Celui qui triomphe de la mort, voilà, c'est celui-là qu'il faut chercher, celui qui maîtrise le temps, qui maîtrise... Le bonheur, c'est Dieu seul. Oui.
Question Internet. Donc, quand Dieu donne la richesse à un chrétien, il ne doit pas en profiter pour lui-même, c'est-à-dire, par exemple, acheter des biens, voyager, etc. Il doit vivre comme s'il n'en avait pas.
Effectivement. Il doit être conduit par Dieu dans la gestion de ça. Tu dois, quand tu manges ton hamburger, dire merci Seigneur pour des choses que tu as créées, qui nous font du bien. La jouissance doit être en connexion toujours avec Dieu. Dès qu'elle s'est déconnectée de Dieu, ça crée un goût amer après. Comme quel aliment dans la Bible, ça crée des problèmes lorsque c'était déconnecté de Dieu. La manne. Quand tu prenais la manne et tu voulais gérer la manne, alors que Dieu disait... À chaque jour, ça manne. Toi, tu en as pris beaucoup. Je dis, mais je vais gérer, je vais faire des provisions de manne. Le lendemain, ça produisait quoi? Des vers, ça produisait, c'était pourri. Donc, dès que le don de Dieu est utilisé comme d'une manière isolée de lui, ça crée un goût amer après. Donc, quand Dieu nous rend riches, ben, on doit vivre cette richesse dans sa communion avec lui. Dans sa volonté. Et parfois, nous ne sommes qu'un tremplin pour prendre et redonner ailleurs. Mais quand nous, on garde la manne, ça va pourrir et vous allez voir des gens se transformer alors qu'ils étaient bons autrefois. Ils sont transformés parce qu'ils ont gardé la manne. Ils ont gardé ce que Dieu leur a donné alors qu'ils n'étaient qu'un tremplin, ils n'étaient qu'un canal. Ils n'ont pas saisi ça parce qu'ils géraient ça pas sans intéresser Dieu dans la gestion des richesses. C'est très, très dangereux. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Il dit, mais même, je fais tout cela, manger c'est bien. D'ailleurs, il va le dire à la fin. Tout ça c'est bien, mais attention, quand c'est déconnecté de Dieu, ça finit par devenir un piège. Et même la sagesse, même ce qui paraît sans danger, vous voyez, même la sagesse qui paraît sans danger, qui paraît comme parfaite lorsqu'elle est isolée de Dieu, lorsqu'elle devient comme un bien personnel, une force personnelle, ça devient un piège qui ne satisfait pas. Parce que cette même sagesse te fait dire, mais tiens, toi et l'insensé, vous êtes dans le même cimetière. C'est cette même sagesse qui te dit, mais c'est vrai. Mais à quoi ça m'a servi d'être sage? Mais Satan, c'est pourquoi? Mais ça doit servir à quoi d'être sage? Ça doit servir à quoi? De connaître Dieu. Voilà. C'est le plus grand usage de la sagesse, connaître Dieu. Oui?
Oui, pasteur. Quand quelqu'un témoigne de sa mauvaise vie devant tout le monde, devant le public, il arrive que nous concluions que il s'est vraiment repenti et Dieu l'a pardonné. Quelles devraient être nos limites ?
Non, moi, je pense que ce n'est pas notre problème, la vie des autres. Ça regarde Dieu. C'est tout. Nous, on n'a pas à dire, ah, mais lui, il s'est vraiment repenti. Lui, mais non, c'est pas notre... C'est entre la personne et Dieu.
Ok. Salomon témoigne et il a écrit, et c'est un témoignage qui est lu de génération en génération, ça reste dans la Bible. Est-ce que, par rapport à ce témoignage, c'est un encouragement aussi aux chrétiens de témoigner quand il y a un problème de leur mauvaise vie, et ça peut aussi servir à d'autres générations, ou comment ?
Oui, oui. Moi, je pense, sincèrement, je pense que la vraie repentance passe toujours par la dénonciation. Une repentance sans dénonciation du mal n'est pas une vraie repentance. Quand on reste toujours dans une forme de maîtrise de soi orgueilleuse où on ne dit pas, on ne confesse pas ce qu'on vraiment on a fait à quelqu'un, hein, je dis bien, donc on n'est pas forcé de faire ça sur YouTube, mais l'esprit de vérité pousse à sortir le mal, c'est-à-dire à le dire. Et nous voyons le monsieur de la croix. Il a dit, nous, on s'est mal comporté. Il a dit. Salomon est en train de dire tout ce qu'il a fait, qu'il considère, au moment où il écrit l'Ecclésiaste, il considère ça comme mal. Les femmes, tous ces ouvrages qui étaient devenus comme un orgueil, il dénonce tout. Parce que nous tous, nous nous repentons, nous connaissons l'Esprit de Dieu, comment il agit. Quand l'Esprit de Dieu agit, de toi-même, tu vas te dénoncer. Tu vas te dénoncer. Je me souviens de mon ami David, quand Nathan lui parle, et il lui donne la parabole du monsieur qui a pris la bête, l'unique bête d'un homme, alors que lui, il en avait beaucoup. Il reçoit un invité, il prend l'unique bête de l'autre, pour tuer, pour faire manger l'invité. Eh bien, David, je pense qu'il avait, un, l'Esprit de Dieu, et même sans l'Esprit de Dieu, c'était quelqu'un d'intelligent, il avait compris qu'il s'agissait de lui. Voilà. Donc, vous savez, il y a des choses que nous, rien qu'avec l'âge, nous comprenons, dès que quelqu'un a dit trois mots, tu sais qu'est-ce qu'il pense réellement, même s'il n'a rien dit. L'expérience, et maintenant, si tu rajoutes à l'expérience la sagesse qui vient de Dieu, David était un prophète, il avait la sagesse de Dieu, il savait qu'on parlait de lui, mais il a dit, cet homme mérite la mort. Voilà. Il ne s'est pas caché. Il a dit, en quelque sorte, je mérite la mort. Il a avoué les choses. Donc je pense que ça, ce n'est même pas quelque chose qu'on doit dire aux chrétiens de faire naturellement. La vraie repentance pousse à dire, ah oui, vraiment, j'étais orgueilleux. Ah oui, vraiment, je me pensais ceci, je me pensais cela. Puisque la vérité vomit le mal. C'est ça, quoi. Nous continuons. 17. La vanité de la production, la vanité du travail. Voilà.
Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout ce qui est vanité est vanité et poursuite du vent.
Ah oui, oui, parce que imaginez que... prenez la place du monsieur qui est dans la maison de retraite. Il a des enfants qu'il a fait étudier, qui sont devenus docteurs en médecine, ingénieurs, grands politiciens qui se sont mariés à des gens de valeur aussi. Maintenant, lui, quand il se retrouve dans la maison de retraite, alors que c'était lui-même aussi un grand administrateur du pays. Mais c'est ce qu'il va dire. J'ai haï la vie. À quoi ça a servi de faire étudier des enfants comme ça? Parce que je crois que quand il avait peut-être 60 ans et qu'il était en forme, il devait se dire, j'ai réussi. Mon enfant est là, docteur. L'autre est ceci. Il devait être fort. Mais là, un jour, ces enfants-là décident de le mettre en réclusion dans une chambre. Et il ne le visite que sporadiquement. Après, bien aimé, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible que ça se fasse ainsi, mais je dis tout simplement, les choses doivent se faire dans l'amour et dans l'unité et dans la construction. Donc, voilà, donc moi, je ne suis pas en train de prêcher une forme de vie par rapport aux gens de... aux personnes âgées, je suis en train de dire que nous devons obéir à la Bible. Honore ton père et ta mère. Nous devons obéir à la justice. La justice, c'est quoi? C'est que je suis. Mes parents ont une grande part dans ça. Ça, c'est la justice. Parfois, il y a des mauvais parents, mais ils ont quand même une part. Aussi faible soit-elle. Donc, nous devons en tenir compte, même si on mettait les histoires de Dieu à côté. Mais même la justice humaine veut que je rembourse ce qu'on m'a fait quand même. Hein? Même la justice humaine. Et donc, du moment que ce monsieur-là ou cette dame se retrouve là, en mangeant, vous savez, on a été dans une conférence où un monsieur a témoigné qu'il avait fait une association qui passent dans les maisons de retraite, qui décrètent un jour de cuisine où ils vont associer les gens qui sont là-bas, les pensionnaires, à faire la cuisine et à manger les plats qu'ils aiment en faisant eux-mêmes la cuisine, en aidés par cette association-là. Il dit, mais nous avons vu des gens reprendre goût à la vie. Est-ce qu'il se dit, ah là, parce que c'est des maisons de retraite où tu peux cuisiner, quoi. Voilà. Mais je ne faisais plus rien puisqu'il n'y a personne qui me visitait. J'allais manger avec qui tout seul. Je me contentais des mauvais plats et je ne mangeais plus puisque... Voilà, ainsi de suite. Et vous voyez que maintenant, ces personnes-là sont dans ces conditions-là alors que même parfois, ils ont des comptes bancaires remplis. Ils ont une retraite qui tombe chaque mois, élevée parfois de 4 000 euros, 5 000 euros. Mais eux, ils mènent une vie de SDF, de pauvres. Ces gens-là, quand ils sont là, ils disent, mais la vie est détestable. La vie est détestable. Ils deviennent aigris. Et c'est ce que Salomon dit. Il dit, mais après avoir fait tout ça, finalement tu te retrouves vieux. Vous savez, David, quand il est devenu très vieux, il avait froid au point qu'on lui a mis une jeune fille pour le chauffer, quoi, tellement il avait froid. Tu te dis, mais moi, le roi David, je me retrouve vieux comme ça, j'ai froid à tout moment. Vous voyez, c'est ça la réalité de la vie si elle est prise en elle-même comme une sorte de force de richesse. Voilà, c'est que ça mène à une détestation. À la fin, tu dis, mais la vie, c'est... J'ai haï la vie, il le dit, voilà. Tout ce qu'on fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité. Finalement, on a fait tout ça croyant que j'ai les meilleurs enfants, les plus intelligents, mais ces enfants-là vont te montrer que tu t'es trompé. Voilà, tu aurais dû mettre ta confiance en Dieu. 18.
J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité.
C'est encore là une vanité. Tu as bâti des hôtels, des entreprises, et quand tu meurs, le fils qui hérite de tout ça, c'est un homme de la jet set. Donc maintenant, c'est des fêtes à gauche, des choses, boîte de nuit là, il invite Michael Jackson ici, et puis finalement, tout l'argent est gaspillé dans les soirées, alors que toi, tu as construit tout cet empire-là dans le dur labeur. Il dit, tout c'est vanité parce que t'as beau faire tout ça, mais toi tu vas partir. Est-ce que la personne qui vient après toi va gérer ça avec conscience? Non, on ne sait pas. Nous connaissons l'histoire de Manassé et Ézéchias. Ézéchias a bâti de belles choses avec Dieu. Mais quand Manassé, son fils, prend le pouvoir, il détruit tout. Il dit, on pourrait se réjouir en disant « Je laisse un grand héritage à la suite, mais cet héritage peut être lapidé en deux temps, trois mouvements. » Combien de combats n'observons-nous pas concernant les héritiers? Les héritiers se battent partout. Finalement, le parent pense laisser une richesse aux enfants, mais plutôt ça devient un piège. Ça détruit l'unité des enfants. Ça détruit même leur vie parce que certains vont négliger de travailler par eux-mêmes en disant « ben je vais hériter ». C'est ça la vanité de tout finalement. Poursuite du vent. Poursuite du vent. Il dit « ben j'ai fait tout ce travail, mais celui qui me succédera, est-ce qu'il prendra les choses au sérieux ?» Donc c'est pourquoi je ne dois pas me reposer sur ça. Je connais notre ami Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Quand il quitte les gens d'Éphèse, dans Actes des Apôtres chapitre 20, il dit « je vous recommande à la parole et au Saint-Esprit. » Il n'a pas dit « j'ai bâti une grande œuvre au milieu de vous, entretenez ça, maintenez cette œuvre-là. » Non, 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 c'est des gens qui avaient compris que tout était vanité, même ce que tu as bâti dans le Seigneur. Mais ce que nous disons là, ce n'est pas seulement valable pour les choses charnelles, c'est valable pour tout, même ce que tu as bâti dans le Seigneur. Si tu prends ça comme une force personnelle, tu te trompes. Seul le Seigneur doit être notre force personnelle. L'apôtre Paul a dit, je vous recommande à la parole et au Saint-Esprit. Il n'a pas dit, je vous ai laissé une grande structure, gérez ça avec sagesse. Non, il a dit, seul Dieu, la parole, le Saint-Esprit, c'est ça votre richesse, votre force. C'est tout. Ce n'est pas ce que je laisse comme construction, comme organisation, comme nombre de convertis. Ce n'est pas ça qui est notre richesse. Ce n'est pas tout ça qui est notre richesse, c'est Dieu lui-même. Je vous recommande à la parole et au Saint-Esprit. C'est ça. Nous continuons.
Et j'en suis. Verset 20 maintenant. Et qui sait s'il sera sage ou insensé ? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est pas point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité.
Voilà, il dit, voilà, tu bâtis des choses, mais parfois tu bâtis ça, toi tu n'en profites même pas. Tu reviens à 1h du matin, tu repars à 7h, et puis après 10 ans, tu as des châteaux, tu as des yachts, tout ça, mais finalement... Toi-même, tu n'as pas réellement profité de tout ça. Il dit, mais tout ça est vanité. Mais il dit, mais finalement, tu vas laisser ça à des gens, à un homme qui ne s'en est pas occupé. Finalement, les gens qui vont prendre ça, ils vont dilapider, ils vont tout détruire. Il dit, tout ça, c'est vanité, finalement. Et il a dit, ça lui a produit quoi ? Du désespoir. Du désespoir. Tu as 18 milliards, comme un certain milliardaire japonais, tu as 18 milliards de dollars, tu as 85 ans, tu sais que tu ne peux plus gérer comme avant. Et quand tu regardes tes enfants, tu dis, mais ils vont tout détruire. Donc, au lieu que tu sois dans la joie d'avoir bâti un empire de 18 milliards, tu es dans le désespoir de ce que ça va devenir après toi, quoi. Voilà. C'est ça, vanité de vanité. Tout ce qui n'est pas relié à Dieu, ça va produire le désespoir. À un moment donné, tu vas dire, ben... Maintenant, est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais tout doit être fait en connexion avec Dieu. Connexion avec sa volonté, en relation. C'est-à-dire, s'il a mis des dons en nous pour produire des choses, le faire, c'est pour sa gloire. Colossiens 3, 23, nous rappelons ça encore. Nous l'avons lu la fois passée. Nous rappelons ça, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est ça en réalité. Si nous ne respectons pas Colossiens 3, 23, nous finirons par le désespoir. Voilà. Verset 24 jusqu'à la fin.
Honneur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du
vent. Voilà, là je commence par la dernière partie. Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de choses que les pécheurs ramassent, ça finit par profiter aux gens de Dieu. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que les pécheurs ramassent, ça finit par profiter aux gens de Dieu. Prenons l'exemple tout simplement d'un pays sécurisé. Ça profite aux enfants de Dieu pour faire leur réunion, pour faire la volonté de Dieu. Voilà, un pays où il y a des richesses bien organisées par les gens qui dirigent le pays, ben ça profite aux enfants de Dieu qui sont là. Et il dit, mais tout ça, c'est vanité de tout ce que les païens font pour amasser. Si nous y regardons bien, ça finit par nous profiter à nous. Et nous remontons, il dit que finalement, la nourriture et la boire, mais c'est des dons, des cadeaux de Dieu. Il dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Il dit, quand l'homme apprécie ces choses-là comme venant de la main de Dieu, c'est différent. Là, il est vraiment dans le bonheur. Vous voyez, dans tout le développement qu'on a fait avant cette phrase-là, il n'y avait pas le côté « ça vient de Dieu ». Il y avait plus le côté « j'ai amassé, j'ai bâti, j'ai fait ceci ». Mais quand tu analyses que tout ça en réalité, c'est le don de Dieu, ça devient bonheur. La grâce rend vraiment heureux. Mais la production personnelle donne une satisfaction orgueilleuse qui donne comme un semblant de bonheur, mais en réalité qui sera suivi de désespoir quand tu verras, mais finalement ça va où? Mais je dis aux gens, mais quand on fait une dépense dans le sens de la volonté de Dieu, je dis, mais c'est Dieu qui payera. Donc quand tu vis les choses comme une grâce, tu n'es pas déstabilisé quand tu dépenses. Mais quand tu vis les choses comme une production personnelle, quand on dépense, ça fait mal. Mais quand tu vis ça comme une grâce qui vient de Dieu, tu es bien. Tu es tranquille. Tu sais qu'il a donné, il donnera encore. Tant que tu es dans sa volonté, tant que tu ne fais pas du gaspillage, tant que c'est dans sa volonté, les dépenses ne te font pas mal. Voilà. Et là, il dit, mais tout ça, c'est le don de Dieu. Qui, en effet, peut manger juste si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Il donne tout ça. C'est lui qui donne tout ça. Donc, nous devrions vivre tout cela comme étant le don de Dieu. Donc, la journée d'aujourd'hui, tu as pu marcher avec tes deux jambes, tu as pu respirer, tu rentres chez toi, tu dors. Ah, merci Seigneur. J'ai vécu ton don aujourd'hui. Quand c'est vécu ainsi, on est dans le vrai bonheur. Mais quand c'est vécu comme une possession, quand tu finis la journée, tu te dis, mais est-ce que demain ça se passera bien? Tu commences à avoir peur. Est-ce que demain, est-ce que je pourrai résoudre tes problèmes? Est-ce que la banque sera ouverte? Parce que c'est ton bien personnel, ta vie est ton bien personnel, les activités sont ton bien personnel, et du coup, il y a un désespoir qui s'installe, il y a une peur qui vient. Mais lorsque nous prenons ça comme la grâce, ben c'est que cette grâce continuera à couler jusqu'au bout. Et on est bien. Bref, nous devons tout relier à Dieu si nous voulons vivre le vrai bonheur. Que Dieu nous aide. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à tout relier à toi, toutes les grâces que nous bénéficions de toi, Seigneur, chaque jour. Nous voulons les vivre avec toi, les vivre dans le remerciement, dans la louange et dans la conscience que tout vient de toi. Ainsi, nous serons dans le vrai bonheur. Nous n'aurons pas l'impression que le bonheur nous échappe parce que nous savons que toi, tu tiens tout dans ta main. Rien ne t'échappe à toi, Seigneur. Nous n'avons qu'à rester connectés, reliés à toi dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour ces enseignements et l'éclairage du Saint-Esprit. Que nous passions à la pratique totalement au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Quelques annonces. Samedi à 16h30, et on a répétition avec les hommes, pour ceux qui peuvent, donc samedi à 16h30. Et samedi à 17h30 avec les femmes pour préparer les chants du 31. Voilà, samedi 16h30 et 17h30, nous donnerons le lieu dans la semaine. Voilà, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.